Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce mardi 16 mars. Avec vous, Christophe Mallet et Jean-Noël Ducasse pour une heure en français. Au sommaire, le journal, les sports, le journal de la semaine en France. On parlera aussi des Winter Masterpieces, l'exposition French Impressionism à la MGV à Melbourne en juin prochain. Il est 13h et on passe au journal. Titre de ce mardi, le Queensland déclare que plus de 50% des cas contacts d'un médecin infecté au coronavirus a maintenant testé négatif. L'Organisation mondiale de la santé soutient le vaccin AstraZeneca malgré l'inquiétude croissante en Europe de graves effets secondaires. Le film tunisien « L'homme qui a vendu sa peau » en lice aux Oscars. Le Queensland n'a enregistré aucun nouveau cas de COVID-19 acquis localement. Deux ont été acquis à l'étranger et détectés en quarantaine à l'hôtel. Un peu plus de 7000 tests ont été effectués hier. Dr Sonia Bennett de Queensland Health déclare que l'État est toujours en train de déterminer s'il existe des cas contacts liés aux médecins infectés de l'hôpital de Brisbane, Princess Alexandra, mais plus de 50% des cas contacts ont testé négatifs.
We're feeling very reassured about those circumstances and how they're unfolding. The Hospital and Health Service has contacted over 1,000 people to determine whether they're contacts or not. And as the Premier said, those that have been determined to be close contacts, with 58% of those have already tested negative. So that's really good news and we're very reassured by that.
La Nouvelle-Galles du Sud attend de voir s'il n'y aura plus de cas de COVID-19 transmis au sein de la communauté. Le travailleur de quarantaine d'un hôtel a contracté la variante britannique du virus d'un voyageur de retour séjournant au même étage de l'hôtel. Les autorités sanitaires de Nouvelle-Galles du Sud affirment que le travailleur n'a violé aucun protocole. L'infection fait toujours l'objet d'une enquête et la chef de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, avertit les autres États de ne pas réagir de manière excessive et de fermer les frontières.
I think at this stage it would be an overreaction. We've only had the one community transmission case. And as the vaccine rollout continues, we do need to change the way we look at these examples. And I would urge all state governments to give us a chance to demonstrate our capacity to get on top of this.
L'Organisation mondiale de la santé soutient le vaccin AstraZeneca malgré les suspensions en cours à travers l'Europe. Mariangela Simao, directrice générale adjointe concernant les vaccins, dit que des millions de doses ont été distribuées jusqu'à présent et il n'y a aucune preuve claire d'une augmentation du taux de caillots sanguins.
People get sick or people die all the time. And what we have seen so far from the preliminary data is that there is not an increase in number of cases of thromboembolic events, in, for example, in Europe and UK. So the recommendation at this point is that the risk-benefit of not vaccinating using AstraZeneca vaccines and other vaccines outweigh the risk of the COVID infection.
Les autorités australiennes sont convaincues que le vaccin AstraZeneca est sûr et efficace. Le médecin en chef Paul Kelly réitère qu'il n'y a aucune preuve que le vaccin provoque des caillots sanguins. Le porte-parole de l'opposition fédérale, des services gouvernementaux et ancien dirigeant travailliste Bill Shorten a déclaré au Nine Network qu'il faisait confiance aux experts. Le sénateur Matt Canavan du Parti national veut que l'Australie suive les principales nations européennes et arrête d'utiliser le vaccin AstraZeneca. Le gouvernement fédéral affirme que les Australiens peuvent s'attendre à environ 12 milliards de dollars de réduction d'impôts d'ici septembre prochain. Le trésorier fédéral, Josh Frydenberg, affirme que les salariés à revenus moyens avec 60 000 dollars par an paieront environ 2160 dollars moins d'impôts par rapport à 2018-2019. Josh Frydenberg a salué la réponse économique de son gouvernement face à la pandémie avant les coupes dans l'aide financière la semaine prochaine. Le programme JobKeeper prend fin officiellement le 28 mars avec de nombreux groupes et les gouvernements des États toujours préoccupés par la façon dont les entreprises vont gérer la situation. Josh Frydenberg a déclaré sur Channel 7 que les États doivent arrêter les fermetures instantanées des frontières s'ils veulent voir des résultats.
You've heard it before, not from me, when they say never get between a state premier and a bucket of money. They seem to always be asking the Commonwealth to do more. I'd like them to do a little bit more. But where I think they can make a real difference to the economy and to Australian workers is to keep the borders open. We will have more cases. It's invariable that we will have more cases. It's about having a proportionate, targeted response to those new cases.
La première du Queensland, Anastasia Palaszczuk, a déclaré qu'elle s'était entretenue avec le Premier ministre Scott Morrison au sujet des problèmes de COVID-19 en provenance de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Madame Palaszczuk déclare que les discussions sont prometteuses, mais elle ne peut pas encore révéler les détails.
We had a very good discussion, but I'm not going to go into any further details until I get an update later on today, but I can say that both the state and the federal government are treating the issues of infections in Papua New Guinea very seriously, and I just want to reassure the Queensland public.
Les syndicats ont exhorté le gouvernement à renouer le dialogue sur les réformes des relations industrielles en cours de négociation avec les sénateurs du crossbench. Le projet de loi doit être débattu au Sénat ce mardi. La coalition a besoin de 3 des 5 voix des crossbenchers de la Chambre haute pour adopter la loi. Le Conseil australien des syndicats a écrit à la ministre par intérim des relations industrielles, Michaelia Cash, pour demander des discussions la semaine dernière, mais n'a pas encore reçu de réponse. La présidente de l'ACTU, Michelle O'Neill, a déclaré que ce projet de loi ne pouvait pas être adopté dans sa forme actuelle.
Look, this is bad legislation, and it's legislation that's going to leave working people worse off. It's going to lead to more casualisation and cuts in pay and conditions, and that's actually the absolute opposite to what Australia needs at the moment. So we're saying to the crossbenchers that they should not pass this legislation. We're of course always willing to talk to people about ideas, but this is not good law.
Les travaillistes ont soulevé des inquiétudes concernant l'action en diffamation du procureur général Christian Porter contre l'ABC. Monsieur Porter a lancé une action en diffamation contre l'ABC et la journaliste Louise Milligan pour un article en ligne concernant une allégation de viol historique. Il poursuit l'ABC pour avoir publié, je cite, « de fausses accusations contre lui » dans une histoire en ligne selon laquelle un ministre anonyme, révélé plus tard être Christian Porter, était le sujet de l'allégation. La députée travailliste Tania Plibersek craint que cette action ne soit utilisé comme excuse pour éviter les questions. Le Premier ministre Scott Morrison a été critiqué pour avoir déclaré que la marche for justice était un triomphe parce que personne n'avait pas été, je cite, touché par des balles. Le chef des Verts, Adam Bent, et la sénatrice Larissa Waters exigent qu'il s'excuse auprès des femmes qui ont manifesté, car c'est un message insultant. La députée travailliste Tania Plibersek a accusé le Premier ministre de ne pas pouvoir comprendre les gens.
Look, I really think that Scott Morrison just doesn't get it. We're at a moment in Australian history where women and are just sad and frustrated. We've just had enough. I just think he is missing the point.
La ministre des Femmes, Maryse Payne, a déclaré que le commentaire sur les balles était une observation importante sur les opportunités offertes par la démocratie australienne. Et sur cette March for Justice à Sydney, notre collègue Grégory Pless a suivi la manifestation. Reportage.
Masquées mais néanmoins déterminées, des milliers de femmes ont battu le pavé hier à Sydney comme dans la plupart des grandes villes australiennes pour réclamer justice. L'étincelle, elle est partie de Canberra, où ces dernières semaines, quatre attachés parlementaires et ministériels ont révélé avoir été victimes de viols commis par des collègues masculins. Un scandale au sommet, mais surtout le scandale de trop, d'après Jamie Evans, qui organisait la marche à Sydney.
I think we are absolutely at a tipping point. I think this time is one of the first times where I've seen such a collective outrage from the community. So many women are fed up with this. You can see that our main message today is enough.
Who here is angry?
Dans la foule, on croise des femmes de tous les âges. Elles ont fait le déplacement et ce malgré le fait que cette manifestation se déroule un lundi à midi.
Almost 70 years old and we're still fighting this shit. You know, enough is enough. You know, stop raping, stop killing, stop bullying, stop harassing. It's a no-brainer. Just stop. Now, stop.
À Canberra, les manifestantes ont proposé hier au Premier ministre de défiler avec elles pour dénoncer le harcèlement au travail, mais aussi le sexisme. Scott Morrison, qui avait lui suggéré une rencontre à huis clos, a décliné l'invitation.
Une tentative de renverser le leader du Parti libéral du Victoria a échoué ce mardi matin. Michael O'Brien, chef de l'opposition, restera aux commandes après que Brett Battin ait été encouragé à le défier pour le poste. Michael O'Brien déclare qu'il espère rester à la tête du parti jusqu'en novembre de 2022, malgré certaines critiques sur sa performance.
It says I have an overwhelming majority, and what it means is that we are focused on Victorians. That's where Victorians want us to be focused. Not that they don't want us to be talking about ourselves. I'm not interested in talking about ourselves. I'm interested in the concerns, the needs, the vision for this state. That's what keeps me up at night. That's what gets me up every single morning. It's what I'm committed to.
En Birmanie, avec des manifestants qui ont saccagé plusieurs usines chinoises. Explication de Stéphane Lagarde pour Radio France Internationale.
Ces attaques des entreprises chinoises en Birmanie ont surtout été relayées par les médias d'État anglophones, avec ce bilan, 2 employés blessés et 32 usines financées par la Chine saccagées dimanche. La radio-télévision CGTN évoque des assaillants armés de barres de fer, de haches et de cocktails Molotov, mettant le feu à l'entrée des sites et aux entrepôts. Pour le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, la situation est donc très grave. La Chine espère que la Birmanie prendra des mesures concrètes pour assurer la sécurité des ressortissants chinois, a fait savoir Zhao Linjian, tout en appelant les autorités birmanes à traduire les auteurs des dégradations en justice. La diplomatie chinoise a répété également ce qu'elle avait affirmé devant l'ONU avant le week-end. La Chine appelle toutes les parties à la retenue et à résoudre leurs différends par le dialogue, une absence de condamnation du coup d'État dénoncée par une partie des manifestants birmanistes.
En Afrique, en République démocratique du Congo, le président de l'Assemblée nationale a présenté les grandes réformes à venir du nouveau gouvernement de l'Union sacrée. Reportage Patient Ligodi pour RFI.
Pour Christophe Mboso, la priorité sera donnée à la loi électorale et à la loi organique portant organisation et fonctionnement de la centrale électorale. La constitution pourrait également être touchée étant donné que certaines options de réforme envisagées dans une proposition de loi déjà déposée impliquent nécessairement la révision de certaines dispositions constitutionnelles, a-t-il dit. L'autre élément majeur sera l'examen du rapport général de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Ce document est déjà sur la table du bureau de l'Assemblée nationale. Cette session se penchera également sur la désignation des animateurs de la centrale électorale. Christophe Mboso espère, a-t-il dit, que cette fois-ci, je cite, « les chefs des confessions religieuses dépasseront désormais leur ego et parviendront à désigner dans le meilleur délai leurs délégués ». Fin de citation. L'Assemblée nationale est totalement mobilisée, a-t-il ajouté, pour accélérer l'entérinement de tous les membres, une fois désignés, afin que soit irrémédiablement levé cet obstacle à la poursuite du processus électoral. De leur côté, les confessions religieuses et les autres membres de la société civile préfèrent que soit vidée d'abord la question des réformes électorales avant d'entamer les choix des dirigeants de la CENI. Aux questions électorales, il faut ajouter le contrôle du gouvernement et d'autres matières.
Un mot de culture avec le film tunisien « L'homme qui a vendu sa peau » en lice aux Oscars. Sylvie Berruet, RFI.
La sélection a été annoncée ce lundi. Il s'agit du long-métrage « L'homme qui a vendu sa peau » de la réalisatrice tunisienne Raouter Benania avec l'actrice Monica Bellucci. La réalisatrice tunisienne salue un événement historique. Elle demande aux autorités de son pays de s'impliquer et de relancer le 7e art qui est quelque peu moribond en Tunisie. La 93e édition des Oscars fait la part belle au film « Manque » de David Fincher qui est visible sur la plateforme Netflix. « Manque » ce film décroche 10 nominations et la cérémonie qui a été reportée en raison du Covid-19, hein, qui était prévue pour février, aura lieu le 26 avril prochain.
On passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 34 degrés. Adélaïde, 25. Melbourne, 22. Hobart, 20. Canberra, 22. Sydney, 25. Brisbane, 23. Cairns, 31. Darwin, 31. Et à Alice Springs, un maximal de 24 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi 16 mars. Le Queensland déclare que plus de 50% des cas contacts d'un médecin infecté au coronavirus sont maintenant testés négatifs. L'Organisation mondiale de la santé soutient le vaccin AstraZeneca malgré l'inquiétude croissante en Europe de graves effets secondaires. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Journal des sports, et on commence avec bien du handball et cette question, les Français iront-ils à Tokyo aux Jeux Olympiques ? Réponse, Christophe Dirambian.
La réponse est oui, mais les plus heureux ce soir, ce sont les Portugais. Pourquoi ? Parce qu'ils ont battu à l'instant les Français 29 à 28 et que pour eux, il leur suffisait d'une victoire simple, d'un seul but pour se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Qualification historique pour les Lusitanos qui ont explosé de joie. Et le héros ce soir s'appelle Rui Silva sur un tout dernier ballon en contre-attaque à 15 secondes de la fin du match. Eh bien, il a permis aux Portugais de remporter ce match 29 à 28. Ça n'a pas eu de conséquences comptables côté français puisque, on le rappelle, les Français avaient au pire la possibilité de perdre ce match par un maximum de 6 buts d'écart. Ils ont donc préservé de leur côté la qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo, mais vraiment ça a été très compliqué et les valeureux Portugais ont vraiment, vraiment mérité ce soir d'aller à Tokyo pour la première fois de leur histoire. La nation émergente du handball européen promet certainement un grand avenir et qui va certainement ce soir fêter en grande pompe cette qualification. Les Français donc ont fait le métier, même s'ils ont craqué à la fin. Ils n'ont jamais su véritablement prendre l'avantage sur les Portugais, surtout en seconde période. En première, ça a été le cas effectivement. Ils ont pris jusqu'à 6 buts d'avance, mais vraiment, les Portugais la voulaient, cette qualification. Ils ont tout fait pour l'emporter jusqu'au bout. Donc, qualification dans cette poule, dans cette tournoi de qualification numéro 2 sur les 3 de la France et du Portugal. Les grands perdants de l'affaire, ce sont les Croates qui n'iront pas aux Jeux Olympiques, eux qui sont pourtant des habitués de la compétition.
Voilà donc pour le handball, on passe maintenant au cyclisme et un dénouement dans Paris-Nice. Incroyable, Primoz Roglic, leader du classement général, était en tête jusqu'à quelques kilomètres de la fin. Et ça rappelle bien des heures au Tour de France l'année dernière, Hugo Moissonnier.
Et oui, ça vous rappelle sans doute l'épilogue du Tour de France l'an dernier, quand il avait été dépossédé de son maillot jaune par son compatriote Pogacar la veille de l'arrivée à Paris. Cette fois, pas de Pogacar. L'ours slovène avait posé sa patte sur la course, la première place au général, 3 victoires d'étape. Roglic gourmand, imbattable déjà pour sa course de reprise. Et la patatras, il est allé tâter du bitume, Primoz Roglic, une chute, une deuxième. Le peloton s'éloigne avec lui, son dauphin au général, Maximilian Schachmann l'allemand, vainqueur l'an dernier alors que la course avait été interrompue par la crise sanitaire. Il s'impose de nouveau dans des conditions très étranges. Premier français au classement général, Guillaume Martin, était aux premières loges pour assister à ce drôle de dénouement.
C'est un fait de course déjà, je trouve. Que sur sa première chute, le peloton a été gentil d'attendre et de neutraliser la course. Donc ensuite, on était à 20 km de l'arrivée. C'était normal que personne se relève et que la course se joue. Hein.
On peut mettre Roglic sur des circonstances de course, peut-être.
Après, voilà, les descentes, tout ça, ça fait partie de la course. C'est un coureur qui est généralement plutôt habile, mais je pense pas que ce soit un problème psychologique. Je pense qu'il est assez fort et assez en confiance pour rassurer comme ça. Mais ça, voilà, ça arrive, c'est juste un fait de course. Hein.
Guillaume Martin, sixième du général, à un peu plus d'une minute du vainqueur, Maximilian Schachmann. Mais dans son équipe Cofidis, il y a des regrets ce soir.
Oui, comme vendredi, le sprinter maison Christophe Laporte termine deuxième de l'étape à un boyau du vainqueur, le Danois Kort Nielsen. Pas beaucoup de réussite en général pour les coureurs français avec 0 bouquet, mais 5 places de deuxième en 8 étapes.
Allez, on passe au football maintenant en France et la défaite du Paris Saint-Germain face aux Nantais, aux Canaries. Des Nantais pourtant bien mal classés, Maria Mélimotte.
Magnifique performance des Canaries, 19e au coup d'envoi, 18e à la fin du match. Les hommes d'Antoine Camboire étaient pourtant menés à la mi-temps après l'ouverture du score de Julian Draxler. Mais ils ont su se remobiliser et le jeune français Randal Kolo Muani a égalisé à l'heure de jeu. 10 minutes plus tard, l'international nigérian Moses Simon a donné la victoire au FC Nantes. 3 points inespéré, extrêmement précieux dans la course au maintien et pour la confiance aussi. C'est ce qu'a souligné le franco-guinéen Abdoulaye Touré à la fin du match.
On a vu que on pouvait aller chercher notre victoire au mental. Ça doit nous servir pour la suite parce que ça va être compliqué. C'est vrai que ça doit nous galvaniser. On a dit qu'il nous restait 10 finales. On en a gagné une. Il en reste 9. Maintenant, ça va jouer au mental, comme j'ai dit.
Et de leur côté, les Parisiens réalisent une très mauvaise opération puisqu'ils avaient l'occasion de reprendre la première place à Lille. Le LOSC compte 3 points d'avance sur le PSG après son match nul 0-0 hier à Monaco. Monaco qui a sans doute dit adieu au titre. 7 points de retard sur le LOSC et 4 sur le PSG et Lyon. Et parmi les autres résultats de cette 29e journée de Ligue 1, 2 partout entre les promus Lens et Metz, tandis que Rennes a remporté son premier match avec son nouvel entraîneur Bruno Genesio, 1-0 face à Strasbourg.
Voilà pour le football en France. On passe maintenant de l'autre côté de la Manche, direction l'Angleterre, championnat d'Angleterre avec Philippe Auclair.
On va parler de Manchester United, on va parler de Leicester City. Chelsea toujours invaincu après 12 matchs avec Thomas Tuchel, qui va bien. Une équipe de West Ham qui a concédé 2 défaites consécutives, mais qui est toujours dans le coup. Plus Everton qui fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 1 pas de côté, mais qui est encore là. Du coup, ça devient en effet compliqué pour cette équipe de Tottenham.
On va passer directement à la 3e place, Philippe Auclair, pour parler de Leicester, le solide 3e de cette première ligue. Succès 5-0 contre Sheffield tout à l'heure. Vous avez une minute pour me parler notamment d'un homme qui a inscrit un triplé. On parlait beaucoup de lui à ses débuts. On l'a un peu oublié. Il est nigérian, Kelechi Iheanacho. Et là, triplé tout à l'heure. Comme quoi, il a du talent à revendre, le nigérian.
Il a du talent à revendre et il est en pleine bourre en ce moment parce que c'est le 3e match consécutif dans lequel il marque alors que les 10 précédents, je parle en championnat d'Angleterre, il n'avait marqué qu'une seule fois. Là, 3 buts, 2 buts de revers des surfaces, très bien exécutés et puis une superbe frappe du gauche de l'extérieur de la surface. Tout va bien et dans un système hyper offensif avec Ayuse Perez, Jamie Vardy et Kelechi Iheanacho pour cette équipe de Leicester qu'on avait cru flotter pendant un moment et qui manque 2 joueurs essentiels, James Maddison et Harvey Barnes. Mais bon, ça fonctionne. fonctionne à nouveau. Bon, il est vrai, contre une équipe de Sheffield United pour laquelle c'est également end of the season, ils ont 14 points. Bon, c'est pas beaucoup, hein. C'est à 14 points du premier non relégable. Et pour Leicester, ça rigole, avec Kelechi Iheanacho. Donc, triplé aujourd'hui, le deuxième de sa carrière en club. Le premier, c'était contre Aston Villa, si je me souviens bien, en FA Cup à l'époque où il était à Manchester City, où on pensait tous qu'il serait la future merveille d'avant-centre.
Et il n'a pas tenu toutes ses promesses, malheureusement.
Voilà donc pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français. Vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Vous écoutez le programme en français et après une courte pause, on retrouve Christophe, cette fois-ci avec Émile Matasso pour le journal de la semaine en France.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Allez, comme chaque mardi, place à l'actualité française. Pour nous en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Bonjour Émile.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Alors à la une, en France, c'est bien le pays qui, comme d'autres pays européens, suspend tout simplement l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca.
Oui, c'est Emmanuel Macron, le président de la République, qui l'a annoncé lui-même lors d'un déplacement à Montauban, dans le sud-ouest de la France. La France, effectivement, suspend par précaution, a dit le chef de l'État, les vaccinations avec le vaccin d'AstraZeneca. Il a précisé que la France attendait l'avis de l'autorité européenne du médicament et qu'il espérait que la vaccination avec le produit d'AstraZeneca pourrait reprendre vite si, je cite, l'avis de l'autorité européenne le permet. Ces derniers jours, la plupart des pays européens, les uns après les autres, hein, Espagne, Italie, Allemagne, mais avant cela, le Danemark, la Norvège, l'Islande, les Pays-Bas, tous ces pays avaient aussi décidé, par précaution, de ne plus utiliser pour l'instant le vaccin d'AstraZeneca. Il y a aussi le vaccin Pfizer, hein, qui lui continue d'être utilisé. Alors pourquoi on arrête le vaccin d'AstraZeneca? Cela suite à certains effets secondaires. Alors de quoi parle-t-on? Eh bien de personnes vaccinées avec ce vaccin-là qui ont eu parfois de graves problèmes de circulation sanguine. Certaines personnes sont mortes, des problèmes de coagulation ou de formation de caillots dans le sang. Mais pour l'instant, le lien formel entre le vaccin et ses soucis de santé, le lien n'est pas directement établi. Il y a simplement une chronologie des personnes ayant reçu une dose du vaccin d'AstraZeneca qui ont connu de graves problèmes quelques jours après. Mais est-ce qu'il y a un lien direct ou pas avec le vaccin? C'est ce que les scientifiques essaient d'élucider. Avant la pandémie Covid-19, chaque jour, des personnes pouvaient mourir de thrombose ou de problèmes de coagulation. Les conclusions de l'Agence européenne du médicament, en tout cas, elles sont attendues avec impatience ce mardi, normalement. Et en tout cas, à ce jour, en France, aucun cas de décès lié au vaccin d'AstraZeneca n'a été révélé. Et ce week-end, Jean Castex, le Premier ministre, rappelait qu'il fallait avoir confiance, hein, a-t-il dit, dans le vaccin d'AstraZeneca. Sinon, ajoutait le Premier ministre, on aura des retards dans la vaccination. Les Françaises et les Français seront moins protégés et la crise sanitaire durera longtemps. Olivier Véran, ministre de la Santé, a expliqué, lui, que le risque de caillot sanguin n'était statistiquement pas plus fort chez les patients vaccinés avec AstraZeneca que chez les autres, tout en ajoutant, Olivier Véran, que chaque dossier serait analysé pour voir s'il y a un lien de causalité.
La situation sanitaire maintenant, et bien tout reste extrêmement préoccupant en France. Emmanuel Macron a laissé entendre que de nouvelles décisions allaient être prises.
Oui, de nouvelles décisions dans les jours qui viennent, a lancé Emmanuel Macron. On se souvient que fin janvier, l'exécutif a pris la décision de ne pas reconfiner le pays, alors qu'à ce moment-là, le conseil scientifique que consulte régulièrement le gouvernement depuis un an, depuis le début de la pandémie, le conseil scientifique le préconisait fortement, reconfiner la France pour arrêter la propagation du virus, casser la dynamique de contamination. C'est ce qu'on a appelé en tout cas le coup de poker d'Emmanuel Macron de ne pas suivre les recommandations du conseil scientifique. Il a pris le pari, le président de la République, de ne pas reconfiner le territoire en espérant que les hôpitaux ne seraient pas engorgés par les malades du Covid-19, pas avant en tout cas que la courbe s'inverse, avant que la campagne de vaccination fasse son effet. Mais ce pari, il tient à un fil, et chaque jour qui passe, chaque semaine, rend la situation de plus en plus difficile. Dans le Pas-de-Calais, ou dans le sud du pays, autour de Nice, des confinements localisés ont déjà été instaurés le week-end. On en a parlé ces dernières semaines, mais la grande question et de savoir s'il va falloir confiner Paris et l'Île-de-France. Si l'on s'en tient aux chiffres purs et à la logique que le gouvernement applique à d'autres territoires, l'Île-de-France devrait déjà être confinée depuis 2 ou 3 semaines, car les chiffres sont très très mauvais. Mais confiner Paris et les départements limitrophes serait lourd de conséquences. L'Île-de-France, c'est 12 millions d'habitants et c'est le poumon économique du pays, 30% de la richesse nationale qui est produite. Confiner l'Île-de-France, ce serait de nouveau mettre à l'arrêt l'économie du pays. Et on a bien compris depuis des mois que la volonté du gouvernement, c'était surtout de ne pas brider une nouvelle fois la machine économique. Il faut donc tenir coûte que coûte, malgré l'engorgement dans les services de réanimation. L'ordre a été donné, nous en parlions la semaine dernière, dans les hôpitaux franciliens, d'annuler 40% des rendez-vous, des opérations concernant des pathologies autres que le Covid-19, pour libérer des lits, libérer des places pour les malades du coronavirus. De la même façon, des transferts de malades ont commencé. Et il y aura au moins une centaine de malades Covid-19, de personnes qui se trouvaient en réanimation, qui vont être transférés de l'Île-de-France à d'autres régions, par avion, par train, transférés dans des régions où il y a encore de la place dans les hôpitaux, dans les services de réanimation, là où le virus circule moins. Alors cela demande une logistique assez exceptionnelle, et il y avait déjà eu au printemps 2020, lors de la première vague, des transferts de la sorte, d'une région à l'autre, au plus fort de l'épidémie. Est-ce que cela sera suffisant cette fois pour éviter un nouveau confinement de l'Île-de-France? Personne ne le sait, mais la dynamique de contamination du virus, elle continue de s'accélérer. La situation pourrait véritablement devenir intenable et le confinement s'imposer. Le maître du temps, c'est le virus, malheureusement, a rappelé ce lundi Emmanuel Macron, qui a demandé au gouvernement, je cite, de travailler pour que dans les prochains jours, l'exécutif redonne de la visibilité à la population sur le calendrier. Oui, avoir un horizon, les Français en ont besoin, ils ne demandent que cela, un autre horizon que les 350 morts par jour en ce moment du Covid-19, un autre horizon que le couvre-feu imposé à tous depuis deux mois, un autre horizon que les 25 000 nouveaux cas positifs par jour, un autre horizon que de se dire que le printemps arrive, hein, nous sommes mi-mars, et qu'un confinement risque de s'imposer à nouveau.
Merci Émile d'avoir décrypté l'actu française pour nous cette semaine.
Merci, bonne journée et à bientôt.
SBS French, mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment en ligne.
J'ai le plaisir d'avoir Ted Gott, qui est le Senior Curator for International Art à la Galerie Nationale du Victoria, the National Gallery of Victoria. Bonjour Ted et bienvenue sur SBS French.
Bonjour Jean-Noël et merci bien.
Et on parle des Winter Masterpieces French Impressionism de cette année. C'est une exposition d'une centaine d'œuvres des impressionnistes en partenariat avec The Museum of Fine Arts de Boston. Racontez-nous ce que nous allons voir en Australie.
On va voir une centaine de peintures et une douzaine de fortes et de lithographies par tous les artistes associés avec le mouvement impressionniste. On va voir aussi quelques artistes qui travaillaient avant les impressionnistes. Donc, l'exposition commence avec l'école Barbizon. Et il y a une galerie de peintures de Théodore Rousseau, de Corot, de Diatla Peña. Et après ça, il y a une salle dédiée à Eugène Boudin, qui était le premier maître de Claude Monet. Donc, en effet, l'exposition montre les pas envers l'impressionnisme aux années 1870. Et après ces deux galeries qui ouvrent l'exposition, on plonge entièrement dans le milieu des impressionnistes eux-mêmes, avec des peintures éblouissantes de Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, bien sûr. Pour les femmes artistes, il y a Mary Cassatt et Berthe Morisot, Camille Pissarro, bien sûr. Mais il y a aussi des artistes qui travaillaient avec, mais qui ne furent pas entièrement liés avec les impressionnistes, c'est-à-dire le vieux maître Édouard Manet, Henri Fontaine-Latour. Ces deux artistes furent des amis des impressionnistes, mais n'exposaient avec eux dans leur exposition au milieu du 19e siècle. Mais ils étaient des précurseurs des impressionnistes eux-mêmes. Donc, j'ai dit, il y a une centaine de peintures. Ce qui est absolument extraordinaire pour nous, c'est que de cette centaine de peintures, 79 peintures n'ont jamais visité l'Australie en avant.
C'est une première.
Donc, c'est extraordinaire. Donc, c'est tellement surexcitant, car on prête toujours des œuvres d'art à travers le monde. Donc, aucun surprise si on a vu certaines des peintures de Boston ici à Melbourne ou à Sydney ou à Canberra il y a plusieurs années dans d'autres expositions. Mais avoir 79 peintures qui n'ont jamais visité l'Australie, c'est absolument éblouissant pour nous. Donc, en effet, on peut penser, oh oui, French Impressionism, je le connais. Non, vous ne le connaissez pas, car vous n'avez jamais vu ces peintures si vous n'avez pas visiter Boston. Et maintenant que nous ne pouvons pas voler, nous ne pouvons plus visiter Paris. Malheureusement, on ne peut pas visiter les États-Unis, mais voilà que Paris et Boston arrivent ici à Melbourne. Donc l'exposition ouvre le 4 juin et ça finit le 3 octobre.
Tout à l'heure, vous aviez mentionné une artiste, je crois, américaine, Mary Cassatt.
Oui.
Qui est-elle?
Elle était une artiste qui venait des États-Unis, habitait à Paris au milieu, pas au milieu, au commencement des années 70. Elle est devenue une grande amie d'Edgar Degas et elle était là au commencement du mouvement impressionniste. Elle participait dans les expositions, les impressionnistes qui ont commencé avec l'exposition célèbre qui a eu lieu à Paris en 1874. Ça, c'était la première exposition des impressionnistes. Mary Cassatt fut là et elle participait avec le mouvement jusqu'à sa fin. Il y avait en effet 8 expositions impressionnistes entre 1974 et 1986. Et Mary Cassatt était absolument au centre de l'exposition. Mais très important pour l'histoire de l'impressionnisme en outre de la France, c'était Mary Cassatt qui a conseillé des collectionneurs aux États-Unis d'acheter les œuvres de ses amis. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles les expositions à Boston, à Chicago, à New York sont absolument pleines des peintures impressionnistes, car c'était Mary Cassatt qui fut ambassadeuse pour le mouvement aux États-Unis.
Sinon, en ce moment, vous recommandez quelle exposition à la NGV? Je pense à l'exposition Triennial qui va prendre fin au mois d'avril.
Le Triennial, c'est extraordinaire. Donc, il y a plus de 100 artistes qui proviennent de, je pense que c'est 33 pays du monde. Il y a quelque chose pour tout le monde dans cette exposition. Ils s'occupent toutes les galeries ici de notre bâtiment sur St. Kilda Road, NGV International. Et il y a tellement de merveilles à voir et c'est absolument gratuit.
Oui.
Donc, je conseille à tout le monde qui écoute cette émission de, n'oubliez pas de nous visiter avant la fin de cette exposition, car ça va vous enchanter, ça va vous délire, ça va parfois, on peut vous choquer un peu, mais ça c'est le rôle de l'art contemporain, n'est-ce pas?
Et au Ian Potter Center, est-ce qu'il y a des expositions en ce moment que vous suggérez aux gens?
Oui, à Ian Potter Center, malheureusement, l'exposition à Tiwi vient de fermer. C'était une telle exposition éblouissante, mais il y a aussi d'autres expositions là. Et on prépare en ce moment une grande exposition de l'impressionnisme australien qui va ouvrir au commencement d'avril. Et ça s'appelle Sheoak et Sunlight. Il va être vraiment un mariage entre les deux bâtiments, les deux expositions. Donc, on a l'impressionnisme français ici, à St. Kilda Road, et l'impressionnisme australien à Federation Square. Super.
Absolument. Et je reviens au Winter Masterpieces, Ted. J'imagine qu'il faut réserver dès maintenant parce qu'il y aura une limite de gens que vous allez pouvoir accueillir chaque jour.
Oui, oui, oui. Malheureusement, à cause de ce virus maudit, on doit limiter le nombre des personnes qui peuvent visiter chaque jour. Donc, on vous conseille de réserver vos places. Et malheureusement, l'exposition est à payer. Toutes les expositions ne peuvent pas être absolument gratuites, mais ça va absolument
relancer le monde de la culture.
Oui. Donc, en effet, le prix de cette exposition, c'est absolument your money's worth.
Oui, absolument. Absolument. Donc, on encourage les gens à réserver dès maintenant. Ted, merci beaucoup d'être intervenu sur SBS French et on se reparle très prochainement au début du mois de juin.
Volontiers, volontiers.
À bientôt.
Bonne continuation, à la prochaine. Merci, Jean-Noël.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Il est 13h57, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous jeudi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. Et je rappelle que le Festival du film français en Australie se poursuit et demain il sera inauguré à Brisbane avec le film Eiffel. Et on vous dit au revoir.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.